Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette première édition 2017. De nombreuses préoccupations occupent la scène politique et diplomatique internationale en ce début d'année. Beaucoup d'interrogations aussi, à commencer par la nouvelle présidence américaine. Qu'attendre de la politique étrangère des États-Unis, version Donald Trump? Quelles perspectives géopolitiques pour l'Union européenne post-Brexit? Quelles prochaines étapes attendent la Syrie, la relation Chine-États-Unis, États-Unis-Russie? Qu'est-ce compter du nouveau secrétaire général de l'ONU? Hassan Rouhani sera-t-il reconduit à la présidence iranienne? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités par téléphone depuis le Liban, Karim-Émile Bitar, professeur associé de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, bonjour.
Bonjour.
Et le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies et directeur des relations extérieures du groupe Marc, bonjour.
Bonjour.
Rarement l'opposition a été aussi forte entre un président sortant et un président élu. Barack Obama d'un côté, Donald Trump de l'autre. Les deux hommes ont beau prétendre que la transition se passe sans accroc, ils se livrent à une partie d'échecs qui contredit la règle selon laquelle les États-Unis n'ont qu'un président à la fois, Bertrand Badie.
Oui, la difficulté vient, je crois, de l'éclatement du jeu et des visions politiques aux États-Unis depuis quelques années. C'est-à-dire, en gros, il y a trois postures face à la mondialisation. Il y a une posture qui consiste à penser que face à une mondialisation croissante, les États-Unis doivent affirmer leur rôle de leader et profiter justement de ce rétrécissement du monde pour le dominer et imposer ses propres valeurs. C'est la filière néoconservatrice et qui a été actualisée par Hillary Clinton, qui s'inscrit peut-être plus timidement que George W. Bush, mais qui s'inscrit quand même dans ce sillage. Il y a la posture qui était celle d'Obama, qui consiste à dire que la mondialisation veut dire pluralité, qu'il faut respecter cette pluralité, que le leadership américain sur un monde plural est quelque chose de tout à fait illusoire, coûteux et dangereux, et donc qu'il faut suivre la vieille pérégrination libérale, néolibérale, libre-échangiste et ce qui s'ensuit. Et puis, il y a une troisième posture qui est celle de tous ceux qui, comme ailleurs dans le monde, ont peur de la mondialisation, considèrent que cette mondialisation s'attaque à la puissance américaine, qu'il faut donc restaurer la puissance américaine en soumettant la mondialisation aux intérêts nationaux des États-Unis, ce qui peut les conduire à intervenir quand il faut intervenir, mais aussi à se désintéresser de certains terrains quand ceux-ci ne sont pas considérés comme juteux ou utiles pour la puissance américaine. Et donc, on comprend que le choc fut très dur durant la campagne présidentielle, puisqu'il y avait les représentants de deux de ces trois courants, et que ce choc reste incarné sous une nouvelle forme avec l'opposition entre le président sortant et le président élu. Et bien entendu, on va goûter de cette rupture à partir du 21 janvier, quand sera investi le nouveau président. Alors, la question quand même qu'il convient de se poser, c'est face à ces trois options qui sont très différentes et qui marquent un début d'instabilité pour la politique étrangère américaine, quels seront les éléments de permanence? Parce qu'une politique étrangère, ce n'est pas facile à changer. On ne peut pas passer d'une option carrément à une autre aussi facilement. Donc, qu'est-ce qui va contraindre le nouveau président, finalement, à s'assagir, à suivre certains éléments d'un sillage déjà tracé? Et qu'est-ce qui, au contraire, va l'amener à renverser la table, à casser un peu de vaisselle et à montrer qu'on entre dans un monde nouveau? Il faudra quand même que ce monsieur ne déçoive pas ceux qui l'ont porté à la présidence, donc qu'il marque, et c'est ça qui peut faire peur, par quelques actes symboliques, forts, les éléments de rupture. Mais le problème en politique internationale, c'est que le symbole est très vite belligène et très vite source de tension. Alors ce qui est intéressant, c'est que, on l'a déjà dit hier, la similarité de Poutine et de Trump qui se ressemblent dans leur analyse de la mondialisation et ce qu'il faut en faire, c'est-à-dire dans ces trois options de la politique étrangère, Poutine est proche du logiciel Trump. Mais avoir le même logiciel ne veut pas dire s'aimer. Avoir le même logiciel peut justement conduire à s'affronter de manière d'autant plus franche. Ça, c'est un danger. C'est un danger parce que M. Trump est aussi ignorant des relations internationales. C'est un danger parce que M. Trump a jugements à l'emporte-pièce et souvent complètement à côté de la plaque. Et comme le disait hier Karim El-Bitar, c'est aussi dangereux parce qu'il y a autour de lui, non pas ceux qui entouraient Reagan, qui lui ressemblaient autrefois, et qui étaient dans son entourage des gens extrêmement sages comme Kissinger ou Alexander Haig, mais des personnalités inquiétantes.
Alors pour rester à la relation entre les États-Unis et la Russie, est-ce que finalement, c'est une des questions qui se pose, Donald Trump réussira là où Barack Obama n'est pas parvenu à ses fins? Je pense à ce qu'on évoque depuis le début de la présidence Obama, ce reset avec la Russie, Dominique Trinquant.
Alors, le premier point, je crois, ce qu'il y a de frappant quand on parle de Monsieur Trump, c'est qu'aux États-Unis, d'habitude, il y a toujours la victoire d'un appareil. Là, c'est pas un appareil, c'est une personnalité. C'est une personnalité avec ses qualités et ses défauts. Mais ça n'est pas l'appareil. Je rappelle que Monsieur Trump a gagné contre l'appareil républicain. Et donc, aujourd'hui, on va trouver cette personnalité de Trump avec la personnalité de Poutine, qui peuvent se comprendre. Ce sont des hommes qui ont l'habitude d'utiliser la force, d'abord, mais qui sont capables de négocier, qui ne partent pas de principe, mais qui partent de réalisme. Donc, tous les deux ont des possibilités d'entente. On a vu, si vous voulez, les crises, entre guillemets, pour s'éloigner du Moyen-Orient dont nous parlions hier, essentiellement les crises en Europe, par exemple, avec l'Ukraine. On a vu les vieux mécanismes de l'OTAN et de l'appareil militaire américain se mettre en oubliant que ça n'était plus l'Union soviétique, que c'était la Russie. J'ai été frappé, moi, de voir les vieux réflexes qui revenaient. Moi qui ai travaillé un peu dans l'OTAN, on voyait les mêmes. Et donc, là, il y avait des mécanismes qui reprenaient. Et là, M. Trump, le premier, a dit, attention, l'OTAN, ça n'est plus ce que c'était. Ça ne doit plus être ce que c'était. Et il va falloir que les Européens se prennent en charge. Ça, c'est pour le burden sharing entre les États-Unis et l'Europe. Mais en même temps, il peut avoir une vision différente de l'opposition résiduel et qui est remonté avec les mesures de réassurance qui ont été prises récemment contre la Russie. Et donc, je pense que le fait que ces deux personnalités aient des personnalités relativement proches, le fait que Monsieur Trump n'ait pas un appareil qui, on le connaît, l'appareil qui a connu la guerre froide et qui, avec l'OTAN, a continué, peut permettre d'offrir des opportunités. J'allais dire, je reprends un terme chinois sur les crises, hein, qui est Wei Fei, qui dit que la crise, c'est à la fois du danger, mais aussi des opportunités. Et je pense que notre inquiétude aujourd'hui, en ce début de 2017, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes pour comprendre tout ça.
Alors, avant de passer la parole à Karim El-Bitar, juste un approfondissement, Dominique Trinquant, quand vous parlez d'opportunité.
Oui, opportunité, c'est-à-dire la capacité de ne plus faire monter les mécanismes. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans les mécanismes de l'OTAN, pas en tant que tel, mais face à la Russie, c'est les mécanismes qui ont présidé à la prise de la Première Guerre mondiale. Les mécanismes automatiques. Vous savez, on fait jouer, je me réjouis tous les jours que la Géorgie et l'Ukraine ne fassent pas partie de l'OTAN, ce qui avait été demandé à un moment, parce que sinon l'article 5 jouait automatiquement. C'est les automatismes qui amènent à la guerre et qui ne sont plus contrôlés. Et ça m'inquiète beaucoup. Et donc je pense que l'opportunité aujourd'hui, c'est que ces mécanismes ne jouent pas et que Monsieur Trump, mettant en cause d'une certaine façon l'OTAN et le rôle de l'OTAN tel qu'il est aujourd'hui et la part des Européens, nous en parlerons plus tard avec le Brexit probablement, il y a un rôle de l'Europe qui a été totalement absente de notre constat de 2016. Et là, il y a vraiment des cartes à jouer. Alors, je ne sais pas si l'Europe a la capacité de le faire, mais en tout cas, il y a une opportunité de le faire.
Karim El-Bitar, un commentaire sur ce qui s'est dit sur la relation.
Oui, alors il est tout à fait vrai que Trump a gagné contre l'état-major du Parti républicain. C'était en quelque sorte une défaite du néoconservatisme et un retour en force de ce qu'on appelait le paléoconservatisme, le conservatisme à l'ancienne qui était représenté par exemple par Pat Buchanan, c'est-à-dire une vision identitaire, l'Amérique blanche dans son dernier sursaut et le refus d'expérimentation hasardeuse à l'extérieur. Mais ce qui m'a également frappé, c'est la rapidité avec laquelle un certain nombre de figures de l'état-major républicain ont retourné leur veste et sont aujourd'hui prêts à faire des offres de service à Donald Trump. On a même cité le nom de John Bolton pour le poste de sous-secrétaire d'État aux affaires extérieures. C'est un des néoconservateurs les plus endurcis, un faucon qui souhaite faire la guerre à Téhéran et qui était l'un des architectes de la guerre d'Irak. Et il y a d'autres figures néoconservatrices qui ont également été approchées par l'administration Trump. Donc ce que je crains, ce sont des tentatives de récupération et qu'on se retrouve un peu avec le pire des deux mondes, c'est-à-dire les identitaires paléo-conservateurs et les néo-conservateurs qui reviendraient avec une revanche à prendre. D'autant plus que je partage l'analyse selon laquelle le fait que les tempéraments de Trump et de Poutine soient assez proches peut permettre à courte échéance éventuellement de faire quelques accords sur la Syrie ou ailleurs, mais cela ne présage pas forcément d'une relation solide sur le long terme. Nous sommes en présence de deux tempéraments impétueux, de deux tempéraments volcaniques, et il n'est pas à exclure que les relations ne viennent à nouveau se tendre dans quelques années. Monsieur Trump est véritablement quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau, qui peut partir en un quart de tour. Il suffit qu'une remarque le blesse dans son ego pour qu'il se lâche sur Twitter à 3h du matin et qu'il insulte la chancelière allemande aujourd'hui, mais demain peut-être quelqu'un d'autre. Donc il y a un recoupement d'intérêts aujourd'hui entre les nationalistes conservateurs autoritaires dans la planète. Il y a un consensus sur les questions de valeur aussi, sur le rapport à l'homosexualité, aux femmes, aux athées. Donc sur les questions sociales, il y a également des rapprochements possibles. Mais comme on avait vu la relation avec Poutine et Erdogan connaître des hauts et des bas, on pourrait également voir Trump et Poutine dans quelques années avoir une relation beaucoup moins cordiale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc tout est à craindre. Personne ne sait quelle sera la politique extérieure de Trump, à commencer par Trump lui-même. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. Il y a à nouveau un risque que Trump ne se fasse récupérer par une partie des anciens conseillers de l'administration Bush, qui essaie à nouveau de revenir en force, tout en ayant également à ses côtés en permanence les partisans d'un identitarisme décomplexé qui ont une vision véritablement caricaturale des Mexicains, des musulmans, mais aussi des juifs. Donc les années prochaines vont être particulièrement hasardeuses. Obama a été critiqué par ses adversaires qu'il appelait l'universitaire en chef plutôt que le commandeur en chef. C'était quelqu'un de très cérébral qui pesait le pour et le contre. Avec Donald Trump, on est dans l'excès inverse. On a un impulsif à la Maison-Blanche. On a quelqu'un qui a un tempérament encore un peu adolescent. Et dans ce contexte-là, le monde étant aussi dangereux qu'on ne le sait, du jour au lendemain, on peut se retrouver dans des situations très tendues. Les actions de Lockheed Martin ont perdu 1,2 milliard de dollars en quelques jours en raison d'un simple tweet de Donald Trump la semaine dernière. Donc moins de 140 caractères postés à 3h du matin sur Internet peuvent conduire à la perte d'une capitalisation boursière d'1,2 milliard d'une des plus grosses entreprises d'armement. Donc c'est le nouveau monde dans lequel on vit, où l'impulsivité, les facteurs idiosyncratiques, la personnalité de ces personnages comme Trump et Poutine vont peut-être être beaucoup plus déterminants que les vieux intérêts géostratégiques des puissances.
Alors pour poursuivre avec la relation entre Russes et Américains, Bertrand Badie, on voit les États-Unis et la Russie sembler vouloir renforcer et étendre leurs capacités nucléaire. Est-ce que c'est la fin de 30 ans de réduction des arsenaux nucléaires? Une logique finalement, ce renforcement qui vient en contradiction totale avec celle de Barack Obama qui s'était prononcé dès 2009 pour un avenir sans armes atomiques et l'appel renouvelé en mai dernier lors de sa visite à Hiroshima. Un sujet d'inquiétude?
Oui, parce que tout cela ressemble à une envie de retour à la guerre froide et à la bipolarité. Or, ce n'est pas possible. Et c'est cette contradiction qui probablement va engendrer les incertitudes à venir. Pourquoi c'est pas possible? D'abord parce que la Russie n'est pas l'URSS d'hier, sa capacité militaire, je pense que Gérald Trinquant pourra nous le confirmer, n'a rien à voir ni comparé à celle des États-Unis ni comparé à celle de l'URSS, parce que il y a un troisième larron, la Chine, qui a pratiquement rattrapé, enfin plus que rattrapé la Russie, l'a dépassé et fait jeu égal maintenant de bien des points de vue avec les États-Unis, parce que la mondialisation a poursuivi son bonhomme de chemin, parce que les sociétés et les acteurs sociaux jouent un rôle de plus en plus important, et surtout, et c'est là que je voudrais en venir, parce que les deux puissances que sont les États-Unis et la Russie ne contrôlent plus du tout l'agenda international. Pendant la guerre froide, l'agenda des crises était presque parfaitement maîtrisé par les Soviétiques et les Américains. Aujourd'hui, l'essentiel de la conflictualité a glissé vers le sud. L'Europe n'est plus le champ de bataille du monde, et à cette époque-là, ce champ de bataille était très contrôlé par Soviétiques et Américains, par le pacte de Varsovie et par l'OTAN. Aujourd'hui, l'agenda international résulte de conflits, je dirais même pas de conflits, de violences, qui sont totalement fragmentés, disséminés, qui relèvent d'acteurs qui ne sont pas des États. Finalement, quels sont les personnages qui ont le plus pesé sur l'agenda international depuis ce début de millénaire? C'est probablement Ben Laden et le pseudo-calife al-Baghdadi, c'est-à-dire pas des États et des acteurs qui sont très peu contrôlables. Et donc, le jeu nouveau de Moscou et de Washington et d'autres, bien entendu, c'est un jeu réactif, devoir réagir à un agenda international qui défile sous leurs yeux et qui les défie par la même occasion. Et là, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que, d'une part, parler le langage de la guerre froide pour traiter ces enjeux nouveaux, c'est taper à côté de la plaque. Mmh. Et deuxièmement, parce que nous sommes dans une situation où les deux grands ne maîtrisent plus personne. Ils ne maîtrisent plus les enjeux, ils ne maîtrisent plus les acteurs non plus. Quand le jeu est contrôlé par vous, vous pouvez limiter les dégâts et jouer clairement de la dissuasion. Lorsque le jeu vous échappe, vous êtes dans une attitude réactive et vous ne contrôlez pas grand-chose. Et comme le disait Karim Émile Bitar, si en plus l'un des deux personnages ne sait même pas contrôler ses nerfs, ça fait beaucoup d'absence de contrôle, ça fait des situations extrêmement fluides et effectivement, cela peut conduire à des situations des plus dangereuses.
En tout cas, Dominique Trinquant, Bertrand Badi évoquait à l'instant les deux grands. Il y a quelques années, on ne parlait plus des deux grands. Il n'y en avait qu'un de grand, c'était les États-Unis. Donc la Russie fait d'une certaine manière son retour. Un commentaire peut-être là-dessus et on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la relation Chine-États-Unis version Donald Trump? Est-ce que les perspectives de guerre en mer de Chine vous paraissent quelque chose à prendre au sérieux, Dominique Trinquant?
Alors sur le premier point sur la Russie, c'est quelque chose qui est bien sûr au crédit de Monsieur Poutine en Russie. Il a restauré la Russie et les Russes le soutiennent sur cette position. 85% des Russes soutiennent et sont heureux de voir que la Russie, dont tout le monde avait dit un peu vite en 90 que c'est fini, avait été traitée très très mal, il faut le dire, par les Occidentaux et par les Américains. Nous les avons poussés un peu à avoir cette réaction. Donc la Russie est de retour, avec la limite, bien sûr, que Bertrand Badi a parfaitement raison de le souligner, que ça n'est pas l'empire tel que ça l'était à l'époque de l'Union soviétique. C'est une Russie revenu avec sa puissance, avec des gestes marquants sur le plan militaire, lorsque des missiles de croisière sont envoyés à partir de la mer Caspienne pour aller frapper en Syrie. C'était pas obligatoire, ça a été fait exprès pour montrer que la puissance russe était de retour. Donc je pense que il faut compter avec cette puissance russe, avec la capacité de manœuvre de Monsieur Poutine et son ministre des Affaires étrangères Monsieur Lavrov, qui, il faut le souligner, a été un très grand ambassadeur auprès des Nations Unies pendant de nombreuses années, qui est à la manœuvre. Donc il faut compter avec cela, avec effectivement, je partage tout à fait le point de vue qu'aujourd'hui ces acteurs majeurs ne contrôlent pas du tout ce qui se passe dans le monde et ils sont plus dans une réaction défensive, dans une réaction, plutôt qu'être à la manœuvre et piloter la politique internationale. Sur l'affaire avec la Chine, simplement.
Quelques secondes pour terminer cette première partie d'émission et on reprendra dans la deuxième partie.
On est un peu dans la continuité de la politique de Monsieur Obama, qui disait que maintenant l'avenir était en Asie, et la Chine démontre à tous les instants qu'il faut compter avec elle.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Bertrand Badi, Karim-Émile Bitar et Dominique Trinquant dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur 2017. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis le Liban, Karim Émile Bitar, professeur associé de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS, Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, et le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, directeur des relations extérieures du groupe Marc. Dominique Trinquant, la relation Chine-États-Unis, version Donald Trump. Les perspectives de guerre en mer de Chine ?
Alors, les perspectives de guerre, peut-être pas, sous réserve du contrôle, bien sûr, du système, mais la puissance chinoise qui s'impose en Asie est très claire. Elle s'impose naturellement sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan financier. Parler de la puissance financière chinoise aux États-Unis même, c'est quelque chose de colossal, mais sur le plan militaire. Pour faire un lien avec les Nations Unies, intéressant, pour la première fois, la Chine est le deuxième contributeur aux opérations de maintien de la paix financière parmi les cinq grands, juste derrière les États-Unis, a dépassé l'Allemagne, bien sûr, mais a dépassé le Japon, et est le premier contributeur en troupes aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Donc ceci, ce sont des signes que la Chine veut vraiment participer au jeu mondial, avec ses cartes qui ne sont pas les nôtres, hein. Dans le commerce en Afrique en particulier, la Chine est omniprésente, avec un discours très clair, nous ne nous intéressons pas à la politique intérieure des États africains, nous sommes là pour faire du business.
Alors justement, la Chine à l'ONU, Dominique Trinquant, vous évoquez l'importance de la contribution chinoise. Elle est aussi vraie pour la Russie. On voit Chine et Russie annoncer qu'elles souhaitent être mieux représentées aux postes clés. Et parmi les postes clés, il y a celui que dirige la France depuis près de 20 ans, les opérations de maintien de la paix. Est-ce qu'une ère nouvelle s'ouvre à l'ONU avec, de surcroît, l'arrivée en 2017 du nouveau secrétaire général Antonio Guterres?
Alors, une ère nouvelle, certainement avec l'arrivée de Monsieur Guterres, ancien premier ministre portugais, il dirigeait l'UNHCR pendant de nombreuses années, donc il connaît très très bien le système, et il a une vision d'un Européen de la politique mondiale. Monsieur Ban Ki-moon, coréen, mis en place par l'administration conservatrice américaine, a été, j'allais dire, un peu aux ordres, et comprenait mal toute cette gestion.
Aux ordres, c'est aux ordres de qui,
Des États-Unis. Il a été mis en place très. C'était Monsieur Bolton à l'époque, hein, qui avait dit qu'il fallait supprimer 30 étages sur les 38 étages des Nations Unies. Non, donc en mettant un secrétaire général sur 8 étages, ça présageait d'une politique assez réduite. Donc Monsieur Guterres, c'est vraiment probablement une ère nouvelle, avec la capacité de comprendre la complexité du monde. Maintenant, sur les postes, c'est une lutte traditionnelle. Chaque fois qu'il y a un nouveau secrétaire général, la lutte pour les postes d'importance est là. Les Chinois le réclament à juste titre, puisqu'ils contribuent de plus en plus. Les Russes aussi, parce que les Russes n'ont jamais eu de poste très très important dans l'administration. Donc on parle aujourd'hui de possibilités. Il y a un nouveau domaine dans lequel les Nations Unies s'engagent, qui est la lutte contre le terrorisme. Là, les Russes pourraient jouer un rôle. Les Chinois, je ne les vois pas vraiment prendre un rôle prédominant dans le poste clé qui est celui de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, dont vous savez qu'il est tenu depuis plus de 20 ans par un Français. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un poste dans lequel on a besoin d'un homme qui est capable de décisions immédiates, ce qui n'est pas vraiment dans les cordes des apparatchiks chinois. Le deuxième point, c'est que c'est un poste extrêmement risqué. Et je ne suis pas sûr que les Chinois veulent aller sur un poste risqué. En revanche, un poste d'administration, département d'appui aux missions par exemple, c'est quelque chose qui les intéresserait plus volontiers. La France a un rôle clé à jouer là-dedans. Bien sûr, parce que avec la continuité depuis 20 ans, elle le joue. Mais parce que je rappelle, et c'est un militaire qui vous parle, que lorsqu'il y a une crise en Afrique, 80% des opérations de maintien de la paix, c'est en Afrique. Mmh. Quand il y a une crise en Afrique, l'ONU sait qu'elle peut compter sur les armées françaises. Et pour compter sur les armées françaises, il faut qu'il y ait quelqu'un au département des opérations de maintien de la paix qui soit capable de parler le bon langage à la France sur ce sujet, avec Monsieur Guterres, qui est européen, très proche de la France, parfait francophile, peut effectivement se jouer ce lien aussi. Donc je crois que les postes vont être distribués, ça sera fait entre janvier et mars, Parce que, évidemment, avec l'administration Obama, M. Guterres ne peut pas discuter, puisque dans 3 semaines, l'administration Trump imposera ses postes. Donc, il est obligé d'attendre, et la répartition se fait, comme à l'habitude, par un savant dosage entre les intérêts des pays et les intérêts propres des Nations Unies. Et je suis persuadé que M. Guterres saura faire peser l'intérêt des Nations Unies d'abord.
Alors, pour poursuivre un tout petit peu sur les Nations Unies, Dominique Trinquant, Bertrand Maddy, après ça, je repasserai la parole à Karim Émile Bitar. L'ONU, la Syrie a occupé beaucoup de résolutions du Conseil de sécurité. L'Afrique, des inquiétudes avec la République démocratique du Congo, Bertrand Maddy, mais ça n'est pas le seul pays pour lequel des signaux d'alarme sont au clignotant.
Non, pas seulement la République démocratique du Congo. Quand j'évoquais le glissement des conflits vers le sud, je pensais à l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique est dans une situation, d'une part, de promesses, liées à son essor démographique, liées à beaucoup de transformations favorables. Faut pas oublier quand même tous les aspects positifs de l'évolution et de la transformation du continent africain, mais en même temps, regardez une carte et vous verrez que les zones de conflictualité commencent à l'ouest du côté de la Mauritanie pour aller de manière presque ininterrompue jusqu'à la Somalie et descendre ensuite effectivement jusqu'au bassin du Congo. C'est-à-dire que c'est la moitié du continent africain, au bas mot, qui se trouve dans une situation de conflictualité récurrente. Et c'est là un autre élément qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, on se désole à très juste titre de cette guerre en Syrie qui dure maintenant depuis près de 6 ans. Mais pensez que le conflit congolais, pratiquement sous des formes différentes, date de l'indépendance, pratiquement de la semaine même de l'indépendance, juin 1960. Pensez au conflit somalien qui a commencé au début des années 90 et même un petit peu avant. Pensez au Sahel où se crée de vraies sociétés guerrières, c'est-à-dire des espaces où, paradoxalement, on fait confiance à la guerre pour pourvoir aux premières nécessités. Nécessité économique, c'est-à-dire c'est un régal pour beaucoup d'acteurs économiques, hélas, pour les trafiquants, pour les mafieux, mais aussi prestataire, cette société guerrière, de protection sociale, c'est-à-dire toute cette jeunesse, cette population africaine désœuvrée, sans emploi, qui trouve, effroyable constat, dans le statut d'enfant soldat, une façon de survivre. Si on ne prend pas en compte tout cela, et si on ne sait pas sortir de ce cycle effroyable qui fait que chaque année, près de 9 millions d'individus meurent de faim dans le monde et essentiellement sur le continent africain. C'est ça l'élément d'urgence sur notre agenda international. Je n'entends aucun candidat à aucune élection présidentielle parler de l'insécurité alimentaire dans le monde, de l'insécurité sanitaire. Donc l'avenir à moyen et long terme du monde, il se joue dans la capacité de prendre en charge la sécurité humaine de l'Afrique et de sortir de ce cercle vicieux des sociétés guerrières. Ça, pour moi, c'est bien plus important que tout. L'émotion que l'on a ressentie lors du siège d'Alep était vraie et combien justifiée. Mais celle que devraient impliquer les souffrances en Afrique mériterait beaucoup plus. Et là, on n'entend pas beaucoup les Bernard-Henri Lévy et consorts nous parler de tous ces dégâts que l'insécurité humaine provoque, parce que il n'y a pas d'effet médiatique derrière ça, et c'est ça qui est terrible.
Sortir des cercles vicieux des sociétés guerrières, c'est peut-être un point commun là aussi avec le Proche-Orient que vous évoquez. Karim Émile Bitar, vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit. Je voudrais qu'ensuite on passe à l'Europe qui était, là aussi on l'a évoqué hier, dans l'émission consacrée au bilan 2016, très absente de la solution des conflits au Proche-Orient, Karim-Émile Bitar.
Oui, Bertrand Badi a touché là à quelque chose d'extrêmement important, à la dictature de l'émotion, de l'instantanéité, aux angles morts des diplomaties occidentales. On se souvient comment toute une caste médiatique s'était emballée sur la question du Darfour il y a quelques années, et dès lors que le dictateur soudanais a semblé faire quelques concessions, accepter la partition du Soudan, on a vu très vite que les grands indignés se sont soudainement calmés alors que rien n'a véritablement changé, et on a vu la descente aux enfers de ce Sud-Soudan dont on nous avait dit que ça allait devenir un nouvel Eldorado. Donc en effet, il y a toujours énormément d'hypocrisie sur la scène internationale. La question de l'humiliation demeure fondamentale et trop souvent négligée aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. J'entendais hier Jean-Marie Guéhenno, qui a occupé le poste qu'a évoqué le général Trinquot aux Nations Unies et qui était aujourd'hui directeur de l'International Crisis Group, nous dire grosso modo qu'il craignait que 2016 ne soit venu clore un peu la page qui s'est ouverte en 89, que l'on assiste aujourd'hui à la fin d'un cycle, que ce retour des nationalismes autoritaires ne vienne véritablement éteindre ne serait-ce que les minces espoirs d'aller vers une gouvernance collective, les grandes conférences internationales des années 90, la conférence de Rio, les grands débats sur le changement climatique, sur le rôle des femmes, etc. Aujourd'hui, on a un retour de la force brute. On a pensé évoluer à un moment donné vers un ordre international plus respectueux des droits et des libertés. Stanley Hoffman avait écrit un livre, Une morale pour les monstres froids, comment se servir de la philosophie morale pour sortir précisément de la force brute, des hypocrisies, des indignations sélectives. Malheureusement, l'année 2016 montre que les vieux démons sont en train de ressurgir, que c'est à nouveau le nationalisme, l'autoritarisme, les conservatismes qui ont le vent en poupe, et que tous les espoirs de régulation, de gouvernance collective qui étaient nés d'abord dans les années 90 et puis à nouveau avec l'administration Obama ont aujourd'hui considérablement pris du plomb dans l'aile, et c'est un symbole très fort auquel on va assister le 20 janvier puisqu'on va avoir le premier président noir qui va céder le pouvoir au premier président qui est soutenu officiellement par le Ku Klux Klan et qui est entouré d'un aréopage de conseillers ouvertement identitaristes, ce courant qu'on appelle la droite alternative, avec des passerelles extrêmement vigoureuses avec tous les courants d'extrême droite en Europe, au Moyen-Orient et en Russie, avec l'influence notamment d'Alexandre Douguin, ce conseiller de Vladimir Poutine, qu'on appelle le Rasputin de Poutine, qui est également sur une ligne assez autoritaire et assez parfois conspirationniste. On a un peu aujourd'hui une constellation à l'échelle mondiale de nationalistes identitaristes, autoritaires, conspirationnistes. Et c'est la démocratie libérale elle-même qui semble aujourd'hui en danger. Je ne pense pas que ce soit exagéré de dire qu'aujourd'hui la démocratie telle que nous la connaissions est véritablement menacée, car nous avons des personnalités qui cherchent à s'émanciper de toutes les normes. Il y a une confusion entre la vérité et le mensonge qui a marqué l'élection de Donald Trump, les fausses nouvelles, les théories du complot qui ont circulé, et tout cela malheureusement n'est plus aux marges. Il est aujourd'hui au cœur du réacteur, au sein même de la Maison-Blanche. Nous avons des courants qui étaient très marginaux il y a 15 ou 20 ans et qui sont aujourd'hui au sein du bureau ovale.
Alors des mensonges qui se sont retrouvés, ça permet de faire la transition sur l'Europe dans la campagne qui a eu cours au Royaume-Uni pour ou contre le Brexit. Alors Karim-Émile Bitar évoquait le nationalisme, le conservatisme qui ont le vent en poupe. Effectivement, l'Europe n'est pas en reste. Est-ce que ça va prendre 10 ans de faire un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni post-Brexit? Est-ce que, après tant d'années de construction européenne, nous sommes proches de la destruction, Bertrand Badi?
Ce qui est effectivement très inquiétant, c'est qu'il y a plein de Trump qui sont au pouvoir en Europe. Regardez ce qui se passe en Pologne, regardez ces gouvernements dans des pays supposés impeccables comme le Danemark ou la Finlande, où on assiste à des choses absolument incroyables. Le gouvernement danois voulant se payer sur les immigrés en leur confisquant leurs bijoux, et les Finlandais considérant qu'il faut pas verser un centime aux Grecs, que c'est bien fait pour leur figure, etc., etc. C'est-à-dire que nous avons l'habitude, nous, Européens, de juger sévèrement les autres lointains et surtout de jamais rien regarder de ce qui se passe dans notre maison. La maison Europe, elle file un très très mauvais coton. Et alors, vous évoquiez le Brexit. Ce qui est intéressant dans le Brexit, c'est que le vote contre l'Europe n'a pas été tellement un vote anti-européen qu'un vote anti-immigré, d'un vote xénophobe, c'est-à-dire la pire des incarnations du nationalisme. Donc, la question qui, à mon avis, domine, c'est quand donc l'Europe saura regarder en face la mondialisation. La grande pathologie de l'Europe, c'est qu'elle n'a jamais su regarder en face la mondialisation pour une raison bien simple. C'est que l'Europe a effectivement inventé les relations internationales modernes à une époque où elle était seule au monde. Et maintenant, l'arrivée de ces puissances émergentes qui appartiennent, je dirais, à la banalité du cycle de l'histoire, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, etc., est considérée comme une menace intolérable. Regardez le journal télévisé de 20h, vous avez chaque semaine au moins un reportage pour montrer à quel point les produits chinois sont dangereux, mauvais, stupides, etc., etc. On entretient effectivement ce qui est devenu presque une haine de celui qui n'est pas européen ou nord-américain et qui, au lieu d'adapter nos politiques étrangères à ce monde nouveau, les rétracte sur elles-mêmes. Alors, il y avait une passerelle avec le monde qui était la passerelle néoconservatrice que nos deux présidents, derniers présidents français, ont très largement utilisée, qui consiste à dire, eh bien, pour pratiquer la mondialisation, on va aller remettre de l'ordre n'importe où dans le monde dès que ça bouge. Ça a échoué par tout ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut souhaiter à l'Europe, c'est effectivement d'avoir une diplomatie mature, notamment de considérer que la migration n'est pas une menace, mais tout simplement dans la banalité de l'histoire nouvelle du monde. On est dans un monde où on bougera de plus en plus, et vous pouvez engloutir, comme on l'a fait en Europe, des milliards et des milliards pour retenir de force les migrants hors d'Europe, ils viendront quand même. Donc, c'est ça la politique qu'il faut impulser, là, zéro, encéphalogramme totalement plat des conseils européens, et puis aussi savoir traiter avec les émergents. C'est ça que l'on peut souhaiter pour 2017 et toute la décennie qui est derrière. Sinon, nous allons échouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire nous allons nous recroqueviller sur nous-mêmes, et on va tellement se recroqueviller sur nous-mêmes que même l'Europe viendra à disparaître comme union pour laisser la place à des micro-nationalismes qui auront pour principal loisir de se regarder le nombril, et surtout d'un nombril qui est en train de se dessécher.
Alors, à l'idée qu'évoque à l'instant Bertrand Badie de se recroqueviller, Dominique Trinquant, ce sera peut-être la dernière question. Il est vrai que la situation, notamment face au terrorisme, ne facilite pas ce que Bertrand Badie appelle une diplomatie mature.
Oui, je suis d'accord. La montée des menaces a tendance à prôner le recroquevillement. Maintenant, ce que je pense, c'est que au lieu de crier au loup sur les réactions des peuples, parce que je rappelle que ce sont les réactions des peuples, c'est un signe majeur du fait que les peuples en ont assez de la façon dont la nomenclatura les traite depuis des années. Tout devait bien aller. Regardez, nous sommes brillants, intelligents et nous allons diriger le peuple. Or, les peuples en ont assez. Et les peuples reprennent la main, parfois de façon assez brutale et à contre-courant. Je pense au problème de l'immigration. Nous avons au sud de la Méditerranée, c'était Mare Nostrum, je le rappelle. C'est devenu une frontière. Parce que au sud, il y a 60% de la population qui a moins de 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne changera pas. Et dans les années à venir, ceci va augmenter. Donc il faut traiter ce problème-là. Mais au lieu de le traiter soit en repoussant loin, j'allais dire, cet ennemi, puisque c'est devenu un ennemi, alors que en fait, on devra traiter avec eux et travailler avec eux, au lieu de le repousser au loin, ou bien de dire « nous ne vous écoutons pas, nous avons la solution miracle pour traiter ce problème-là », il s'agit de remettre les peuples au centre. Je rappelle qu'un État, c'est d'abord fait pour ses peuples, et c'est au peuple de décider. Et à force de les avoir ignorés, on arrive au Brexit, on arrive à Monsieur Trump, on arrive à Erdogan, on arrive à Poutine, et la question doit se poser, demain, en Europe, et en France singulièrement, de pouvoir reprendre en compte les peuples, et d'intégrer là-dedans cette mondialisation qui doit être une opportunité pour le développement de l'Europe.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, directeur des relations extérieures du groupe Marc, Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, et par téléphone depuis le Liban, Karim Émile Bitard, professeur associé de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook. Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Sophia Bédard et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique vous sera présenté par Chantal Leroux. À très bientôt.